La tentative d'assassinat de Konrad Adenauer, un complot pour faire dérailler les réparations. Dans les premières années de l'Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, Konrad Adenauer, premier chancelier de la nation, s'est imposé comme une figure clé dans la reconstruction d'un pays dévasté et dans la restauration de sa place sur la scène mondiale. Farouchement anti-nazi et catholique fervent, Adenauer a dirigé l'Allemagne de l'Ouest de 1949 à 1963, la guidant vers la démocratie, la reprise économique et la réconciliation avec d'anciens ennemis. Cependant, ses efforts pour négocier des réparations avec Israël pour les atrocités de l'Holocauste ont fait de lui une cible d'une opposition extrémiste. Le 27 mars 1952, un colis piégé adressé à Adenauer a explosé au siège de la police de Munich, tuant un policier et révélant un complot d'assassinat choquant lié au militant israélien Menachem Begin. Cet article explore le contexte, l'exécution et les conséquences de cette audacieuse tentative de meurtre du chancelier, mettant en lumière un chapitre peu connu de l'histoire de la guerre froide. Konrad Adenauer et l'accord de réparation. Konrad Adenauer, né en 1876 à Cologne, était un politicien expérimenté avec un historique d'opposition au nazisme. En tant que maire de Cologne pendant la République de Weimar, il a résisté au régime d'Hitler, endurant la prison et vivant en réclusion pendant la guerre. Après 1945, il a cofondé l'Union chrétienne démocrate, CDU, et est devenu le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest en 1949, chargé de reconstruire une nation en ruine. Sa politique étrangère privilégiait l'intégration avec l'Occident et la réconciliation avec d'anciens adversaires, y compris la France et les États-Unis. Un pilier de son agenda moral et diplomatique était de répondre à la responsabilité de l'Allemagne pour l'Holocauste. En 1951, Adenauer a entamé des négociations pour un accord de réparation avec Israël, visant à fournir une compensation financière aux survivants de l'Holocauste et aux jeunes États juifs. Les discussions, officialisées dans l'accord de Luxembourg de septembre 1952, étaient profondément controversées. En Allemagne, certains considéraient les réparations comme un fardeau économique ou une admission de culpabilité collective, tandis qu'en Israël, beaucoup s'opposaient à accepter de l'argent de l'Allemagne, y voyant une légitimation d'une nation responsable du génocide de 6 millions de Juifs. Des groupes radicaux, en particulier ceux liés à l'organisation paramilitaire sioniste IRGUN, ont condamné l'accord comme une trahison des victimes de l'Holocauste, arguant que les survivants devraient recevoir des paiements directs plutôt que des fonds canalisés par le gouvernement israélien pour des projets de construction étatique. Menachem Begin et la connexion avec l'IRGUN. Au cœur du complot d'assassinat se trouvait Menachem Begin, une figure majeure de l'histoire israélienne qui deviendra plus tard Premier ministre de 1977 à 1983 et partagera le prix Nobel de la paix en 1978 pour les accords de Camp David. En 1952, Begin était le leader de Herut, un parti politique de droite ancré dans le mouvement sioniste révisionniste, et ancien commandant de l'IRGUN, la milice pré-étatique responsable d'attaques contre les forces britanniques en Palestine. Begin, dont la famille a péri dans l'Holocauste, s'opposait fermement à l'accord de réparation, le considérant comme un compromis moral permettant à l'Allemagne d'acheter l'absolution. L'opposition de Begin n'était pas seulement rhétorique. Selon des révélations ultérieures, il a activement soutenu un complot pour assassiner Adenauer afin de faire dérailler les négociations de réparation. Le plan a été orchestré par un petit groupe d'anciens membres de l'IRGUN, dont Eliezer Suffren, qui a détaillé son implication dans un mémoire publié des décennies plus tard, Bezliu Amatspoon, en mission de conscience. Le récit de Suffren, corroboré par le journaliste allemand Henning Sietz dans son livre de 2003 Tentative d'assassinat d'Adenauer, l'histoire secrète d'une attaque politique, a révélé le rôle central de Begin dans l'approbation, le financement et la planification de l'opération. Le déroulement du complot. La tentative d'assassinat était à la fois audacieuse et amateur. Le 27 mars 1952, un colis adressé au chancelier Adenauer est arrivé au siège de la police de Munich, suscitant des soupçons en raison de son écriture enfantine et de son adressage incorrect. Le colis, qui contenait une bombe cachée dans une encyclopédie, avait été envoyé par deux adolescents engagés par les conspirateurs. Sentant quelque chose d'anormal, les garçons ont alerté la police plutôt que de poster le colis. Lorsque les officiers ont tenté d'inspecter le paquet, celui-ci a explosé, tuant l'officier de police bavarois Karl Reicher et blessant deux autres personnes. En même temps, deux autres lettres piégées ont été envoyées au lieu où les délégations israéliennes et allemandes négociaient les réparations, revendiquées par un groupe se faisant appeler l'Organisation des partisans juifs. Ces bombes n'ont pas atteint leur cible, mais l'explosion de Munich a déclenché une enquête internationale. Les autorités françaises et allemandes ont retracé le complot jusqu'à 5 suspects israéliens à Paris, tous liés à l'IRGA. Parmi eux se trouvait Eliezer Suffren, qui a admis avoir préparé le dispositif explosif. Les suspects ont été arrêtés mais autorisés plus tard à retourner en Israël, les preuves étant gardées sous scellé pour éviter d'attiser les sentiments antisémites en Allemagne. Les mémoires de Suffren, publiées dans les années 1990, ont fourni des informations cruciales sur les motivations et l'exécution du complot. Il a affirmé que l'intention n'était pas de tuer Adenauer, mais de générer une attention médiatique internationale et de perturber les négociations de réparation. « Il était clair pour nous tous qu'il n'y avait aucune chance que le colis parvienne à Adenauer », a écrit Suffren, suggérant que le complot était conçu comme un acte symbolique. Cependant, cette affirmation est contestée, car l'implication de Begin et l'issue mortelle, la mort d'un policier, suggèrent une intention plus sérieuse. Suffren a relaté l'engagement personnel de Begin, y compris son offre de vendre sa montre en or pour financer l'opération lorsque les fonds manquaient, ainsi que des réunions avec les membres de la Knesset Joshanan Bader et Raïm Lando, et l'ancien chef du renseignement de l'IRGA, Abbas Kertzer, pour coordonner le complot. Conséquences et dissimulation. Le gouvernement ouest-allemand, sous la direction d'Adenauer, et le premier ministre israélien David Ben-Gurion ont cherché à minimiser l'incident pour préserver les fragiles relations bilatérales. Adenauer, conscient des origines du complot, a choisi de ne pas le poursuivre agressivement, craignant qu'il ne provoque une réaction antisémite en Allemagne ou ne fasse dérailler les réparations. Ben-Gurion, qui soutenait l'accord de réparation, a apprécié la retenue d'Adenauer, car rendre public l'implication de Begin aurait pu tendre la relation germano-israélienne naissante. Les détails sont restés largement étouffés jusqu'en 2006, lorsque le Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié des extraits des mémoires de Suffren, suscitant un regain d'intérêt et de débat. En Israël, le rôle de Begin est resté obscur pendant des décennies. Son secrétaire personnel, Yehiel Kadishai, et Hersel Makov, directeur du Centre du patrimoine Menachem Begin, ont affirmé ignorer le complot lorsqu'ils ont été interrogés en 2006. Cependant, le récit de Suffren, soutenu par les recherches de Sietz, a laissé peu de doutes sur l'implication de Begin. La révélation a choqué les analystes, compte tenu du statut ultérieur de Begin en tant qu'artisan de la paix, et a soulevé des questions sur l'éthique de la violence politique à l'ère post-Holocauste. La tentative d'assassinat n'a pas réussi à faire dérailler l'accord de réparation, signé en septembre 1952. L'Allemagne de l'Ouest a initialement versé environ 3 milliards de marks allemands à Israël et 450 millions à la Conférence des réclamations, avec des paiements se poursuivant au fur et à mesure que de nouvelles revendications apparaissaient. L'accord a renforcé l'économie israélienne et a marqué une étape importante dans la reconnaissance morale de l'Allemagne, bien qu'il soit resté source de division. La survie d'Adenauer et sa détermination ont renforcé sa position nationale et internationale, contribuant à sa réélection en 1953. Héritage et signification historique. La tentative d'assassinat de Konrad Adenauer souligne les émotions brutes et la politique complexe de l'ère post-Holocauste. Pour Begin et ses alliés, l'accord de réparation symbolisait une trahison de la souffrance juive, mais leur réponse violente risquait de compromettre l'autorité morale et les objectifs diplomatiques d'Israël. La décision d'Adenauer de dissimuler l'affaire reflétait son engagement pragmatique envers la réconciliation, même au détriment de la transparence. L'incident met également en évidence les défis de naviguer entre justice, mémoire et intérêt national à l'ombre du génocide. Aujourd'hui, le complot est une note en bas de page dans les héritages d'Adenauer et de Begin, éclipsés par leurs réalisations ultérieures. Adenauer est célébré comme un père fondateur de l'Allemagne moderne et de l'intégration européenne, tandis que Begin est souvenu pour son rôle dans la sécurisation de la paix avec l'Égypte. Pourtant, la tentative de 1952 rappelle la volatilité des premières années de la guerre froide, lorsque les divisions idéologiques et les blessures historiques alimentaient des mesures extrêmes. Elle incite également à réfléchir sur l'éthique de la violence politique et sur l'équilibre délicat de la diplomatie dans le traitement des atrocités passées. Comme l'a noté l'historien Moshe Zimmermann, le secret entourant le complot était motivé par un désir mutuel de protéger la réconciliation germano-israélienne. Sa révélation tardive, à travers les mémoires de Suffren et les rapports ultérieurs, nous invite à confronter les ambiguïtés morales d'une époque où survivants, hommes d'État et militants ont lutté avec l'héritage de l'Holocauste de manière profondément différente.